Alors nous recevons ce soir le chariot blanc, que nous accueillons avec tous les êtres de lumière qui se manifestent. Et nous accueillons ces vibrations dans le son, le souffle et la lumière.
Bienvenue à vous-même, André.
Merci. Alors ce soir, nous sommes réunis dans cette belle ville de Hull sous le thème « L'accueil de l'ego ». Est-ce que vous avez un enseignement et ou un commentaire à faire à ce sujet avant la période de questions?
Certainement. C'est un sujet magnifique. Alors le commentaire sera le suivant et nous commenterons ensuite le commentaire. Un jour, il y avait un homme qui était très riche et qui possédait un grand royaume. Un soir, il fit venir devant lui ses deux fils jumeaux et il leur dit « J'ai décidé que je quitterai le royaume. Alors je voudrais vous le donner. » L'un des fils jumeaux, qui était rebelle, dit « Moi, je n'accepte pas ceci. Je ne sais pas pourquoi, père, vous avez géré seul ce royaume et que moi, je devrais le gérer avec mon frère. Je crois que je suis intelligent, que je suis fort et puissant et que je peux gérer seul le royaume. » Le père ne répondit pas à ceci, mais il interrogea son autre fils. Et le second dit, « Moi, je crois que je pourrais gérer le royaume avec mon frère, et je crois aussi que je pourrais le gérer seul. Cependant, père, comme ce royaume est à vous, je vous laisse la décision. » Alors le père dit, « Je vais réfléchir sur une période de 7 années. Pendant ce temps, je diviserai mes terres en deux et mes jardins en deux. Je vous en donnerai chacun la moitié. Et alors, vous devrez me rendre des comptes des cultures que vous avez opérées sur mes terres, de ce que vous avez vendu, de ce que vous avez donné. Et au bout de 7 années, je prendrai ma décision. » Et le père, comme il l'avait dit, divisa le royaume en deux. Cependant, il dit, avant que ses fils ne se lèvent pour quitter, « Je vous fais une seule mise en garde. » Derrière le royaume, en haut sur la colline, il y a un ravin. Ne vous approchez pas de ce ravin. » Alors les fils, chacun de leur côté, comme ils l'avaient appris, se mirent à cultiver les terres. Mais le fils qui était rebelle s'était dit, « Ce royaume m'appartiendra à moi seul, donc je dois revaucher sur mon frère. » Et je dois gagner la partie. Alors je ferai tout. » Et il fit tout certainement. D'abord, au lieu de laisser certaines parties de ses terres reposer et de faire la rotation des cultures, et de ne faire que 3 cultures par année, il en faisait 4, et jamais il ne faisait de rotation. Il se disait, « Cela ne me fait rien si j'épuise la terre. Si je l'épuise d'une certaine façon, lorsque j'aurai le royaume, je commencerai par prendre les terres de mon frère et je laisserai les miennes reposer. » Ensuite, il allait au marché et il disait aux gens, « Achetez mes produits et mes céréales. Vous savez, mon frère est un peu malade, il ne cultive pas très bien, jamais il ne peut sortir des récoltes semblables aux miennes. » Et partout où il passait, il semait la zizanie contre son frère. Et même la nuit, lorsque son frère était au sommeil, il allait dans ses champs, il volait des parties de ses cultures. Ensuite, il amenait des témoins et il disait, « Regardez comment mon frère cultive mal la terre. » Son frère, lui, comme il lui avait été enseigné, laissait des parties de sa terre reposer. Il faisait rotation de cultures. Lorsqu'il avait fait les vendanges et lorsqu'il avait fait les récoltes, il allait au marché, mais jamais il ne disait rien contre son frère. lorsque parfois il était hué ou méprisé, il ne disait rien. Mais chaque semaine, il rendait compte à son père. Ce que son frère ne faisait pas, parce que quelque part, il détournait des fonds. Et il essayait de cette façon de s'acheter, par la séduction, la bonne volonté des acheteurs. Mais voici qu'un jour, il se dit, lorsque Père a dit de ne pas aller derrière le royaume, parce qu'il y avait là un ravin, peut-être a-t-il menti. J'irai voir, peut-être que ce sont les meilleures terres, et là je les cultiverai, et là alors j'aurai des récoltes plus grandes que celles de mon frère, et je sais que le royaume sera à moi. Alors en courant, il s'aventura au haut de la colline, mais là le ravin y était, et il tomba. Il s'accrocha d'abord à un roseau, qui lâcha prise, et alors il se prit après une branche, et il se mit à crier. Il se disait, la branche va céder et je vais tomber dans le fond de ce ravin. Mais son frère, qui l'avait entendu crier, alla au sommet de la colline. Il se pencha et il dit à son frère, « Sois patient et tolérant. Je vais dérouler l'échelle de corde. Puis je te lancerai aussi une corde que tu mettras à ta taille. Et si, en montant l'échelle, elle ne veut pas supporter ton poids, eh bien, moi, j'aurai attaché l'autre corde à un arbre et tu seras certain de te sauver. » Alors, lorsque son frère sortit du ravin, il s'effondra et il dit à son frère, « Je t'ai jugé, je t'ai méprisé, je t'ai volé et voilà que toi, tu me sauves la vie. » Mais à peine avait-il terminé qu'il vit que son père était là, debout derrière les deux. Il regarda son père, il se coucha par terre et il dit à son père, « Pilez sur moi, méprisez-moi. » Le père se pencha, il lui donna la main et il lui dit, « Ne te juge pas d'avoir jugé ton frère, tu expérimentais. » Et la légende dit que les trois se prirent dans les bras et ne firent plus jamais qu'un. Si vous comprenez bien ce commentaire, vous comprendrez les deux parties de vous qui sont miroirs. Une partie de vous qui est gérée par l'ego et qui est soumise au monde de la dualité, qui crée la zizanie et la division, ce monde de dualité dans lequel vous vous battez contre vous-même, ce monde de dualité dans lequel vous avez peur de perdre, dans lequel vous avez peur de ne pas être le préféré, de ne pas posséder le royaume. Alors que quelque part, il y a une autre partie qui n'est pas dans cette troisième dimension, mais qui voyage quotidiennement dans les autres dimensions et que vous appelez votre moi supérieur et qui, elle, avec patience, cultive les terres du royaume pour qu'un jour vous puissiez faire un et posséder ce royaume. Alors sachez bien que votre ego, qui est celui en vous, qui utilise votre mental et qui utilise votre corps émotionnel pour être capable de vous manipuler à souhait, il est là pour vous rendre service d'une certaine façon, c'est-à-dire pour vous permettre de passer à travers tous ces mondes d'expérimentation et de voir la partie de vous qui est limitée. Parce que la partie de vous qui est limitée a le pouvoir de vous appeler à ce qui est illimité en vous. Et alors, lorsque vous êtes exaspéré de cette course folle contre vous-même, vous commencez à comprendre que vous faites un avec le divin. Et ce divin, représenté ici par le Père, jamais n'a jugé et jamais n'a condamné l'expérimentation que vous faites dans ce monde de l'ego. Alors le sujet que vous avez choisi ce soir, c'était d'accueillir l'ego. Accueillir l'ego ne veut pas dire d'entrer dans ces jeux. Ceci ne veut pas dire de vous nourrir et de vous abreuver d'orgueil. Au contraire, ceci veut dire de marcher dans la voie de l'humilité. Mais la voie de l'humilité n'est pas la voie de celui qui se méprise et qui s'écrase, ni la voie de celui qui méprise et qui écrase les autres. Ce n'est pas non plus la voie de celui qui a besoin des autres jusqu'à dévorer son énergie. Ce n'est pas non plus celui qui, quelque part, se croit abandonné et se croit misérable. Alors, vous n'êtes pas que cette misère, vous n'êtes pas que cette souffrance, vous n'êtes pas que cet orgueil, vous n'êtes pas que cet ego. Vous êtes également le divin, vous êtes la semence du sacré, vous êtes l'infinitude de tout ce qui est. Mais cette infinitude, cette semence et ce sacré, vous avez à l'actualiser à l'intérieur de vous, à travers la voie de la simplicité et de l'humilité que nous appelons ici l'accueil. Celui qui accueille ouvre déjà une porte très grande, et une fois que cette porte est ouverte, il lui est possible ensuite de pouvoir intégrer et créer la transformation qui lui permettra de changer de plan. Et c'est le commentaire et l'enseignement que nous avons pour le moment. Et maintenant, nous répondrons à vos questions.
Alors, comme première question, quel est le rôle de l'ego dans nos vies?
Précisément, de vous faire expérimenter jusqu'à la lie, c'est-à-dire jusqu'à l'exaspération. Lorsque vous aurez vraiment compris toute la subtilité de l'ego, comment l'ego vous manipule, comment l'ego vous maintient dans l'état de séparativité dans lequel vous êtes si inconfortable et là où se logent toutes les formes d'émotions, que ce soit la colère ou la jalousie ou la peine ou l'angoisse ou la peur. Nous vous dirons lorsque vous comprendrez que c'est l'ego qui sous-tend tout ceci, que c'est elle qui maintient cet état. Alors, à ce moment-là, vous l'aurez reconnue. Si vous la reconnaissez et que vous l'accueillez en lui disant « Je sais que tu étais là comme une sentinelle de nuit pour me faire apprendre ce qu'était l'obscurité. Sache que j'ai maintenant appris et que je vais vers une autre voie. » Et alors cette énergie qui s'appelait ego ou qui s'appelait émotion ou qui s'appelait mental inférieur seront absorbées et dissous à l'intérieur du moi supérieur. Alors, tout en étant vigilant, soyez quand même là pour comprendre que l'ego a un service à vous rendre. Si vous la jugez, c'est vous que vous jugez. Si vous la condamnez, c'est vous que vous condamnez. Si vous l'ignorez, c'est vous que vous ignorez. Mais si vous l'accueillez et que vous faites justice et paix avec elle, alors vous ferez justice et paix avec vous-même.
Peut-être dans un premier temps, nous définir que veut dire accueil avec la question qui suit. Puisqu'il est impossible de se défaire de l'ego, comment peut-on s'en faire un allié? Alors, vous avez parlé de l'accueil. Qu'est-ce que l'accueil au juste? Et s'il y a d'autres moyens pour que l'ego, on puisse le transformer en un allié, nous écoutons.
Certainement. D'abord, venez au commentaire d'ouverture. Regardez ce qu'a fait le frère. Il a été tolérant, il a été patient. Mais ensuite, il est allé au-devant de son frère et il lui a tendu l'échelle de Jacob, c'est-à-dire cette échelle qui comprend exactement toutes les dimensions, de la première à la 17e. Mais quelque part, le frère qui est au-delà, c'est-à-dire qui est dans une dimension supérieure, vous lance cette échelle. Cette échelle, vous pourriez l'appeler l'accueil. Et l'accueil est une voie, c'est un chemin qui vous permet de pouvoir vous déplacer d'une dimension à l'autre. Alors, lorsque vous accueillez l'ego, vous permettez à l'ego, dans sa vibration, de pouvoir être récupéré d'une certaine façon. C'est difficile à expliquer, mais nous essayons de prendre les termes les plus justes pour que vous puissiez saisir. Alors, c'est comme si cette énergie d'accueil faisait partie de l'amour du cœur du Père, et que cet amour se déroulait comme une grande échelle qui vous permettrait, en montant, c'est-à-dire en accueillant cette vibration de l'ego, en la tenant par la main, en lui disant qu'elle a capacité dans sa vibration de changer de taux vibratoire et qu'elle ne perdra pas dans l'unité. Car sachez bien que l'ego, quelque part, est un peu aveugle, sourde et muette. Elle est aveugle et ne voit pas la lumière. Elle est sourde et n'entend pas la parole du Père. Elle est muette à tout ce qui est vibration subtile. Mais si vous vous approchez d'elle et que vous l'accueillez, quelque part elle finira par entendre. Elle entendra ceci, que si elle laisse son énergie être absorbée dans les autres dimensions, elle ne sera plus divisée, elle n'aura pas mal, elle ne sera pas rejetée, elle ne sera pas maltraitée, elle ne sera pas annihilée, mais bien au contraire, elle deviendra une autre vibration qui la mettra en contact avec l'énergie d'unité, c'est-à-dire qui la fera sortir de cette grande dualité dans laquelle l'humanité est coincée. Car nous expliquons que l'ego se promène d'une dualité à l'autre. Elle va de la peine à la joie. Elle va du froid au chaud. Elle va du bien au mal. Et elle va toujours d'un espace à un autre. Elle est comme le balancier d'une horloge. Elle frappe l'obstacle vers la droite et se rue rapidement vers la gauche. Mais ce qu'elle ne connaît pas, cet ego, c'est qu'elle ne connaît pas le centre de l'être. Mais si vous arrivez à comprendre vous-même, par votre propre conscience, que si quelque part vous arrivez à accueillir à la fois ce qui est beau et à la fois ce qui est laid, et que vous prenez ces deux polarités ou dualités, et que vous les amenez ensemble, et que vous êtes capable de dire « Je suis capable de vivre avec ce qui est beau, et je suis capable de vivre avec ce qui est laid », c'est-à-dire à ne pas mépriser la laideur. Je suis capable de vivre avec la joie, mais je suis aussi capable de vivre avec la peine. Viendra un temps où il n'existera plus ni joie ni peine. Mais vous allez dire, nous allons perdre si nous perdons la joie. Nous vous dirons que la joie est un état. Ce n'est pas quelque chose qui est obtenu par un désir. Et lorsque vous parlez de votre joie dans le plan dualisé, c'est une joie obtenue par le désir. Et lorsqu'elle est obtenue par le désir, elle a une fin rapide. Et alors vous vous mettez à courir pour retrouver cette même joie ou ce même plaisir, et alors vous ne recréez jamais la même chose, et là, ceci vous maintient dans cet état de dualité. Mais si vous arrivez à vivre tous les événements qui sont dans votre vie en les unissant à l'intérieur de vous, là, vous vous retrouverez dans un état de joie et un état de paix, et cela, personne ne peut l'altérer. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la dualité et cet ego qui vous apparaissait comme un ennemi vous apparaît désormais comme un ami, c'est-à-dire comme une énergie que vous pouvez transcender et transformer.
Quelques attributs de l'ego sont la comparaison, le jugement et le doute.
Et l'orgueil.
Est-ce que vous avez des messages par rapport à ces attributs? qu'on puisse les reconnaître d'une façon plus facile.
D'abord, nous vous dirons, la personne que vous jugez le plus au monde, c'est toujours vous-même. Même si parfois votre regard est posé sur l'autre qui est extérieur à vous et que vous semblez juger extérieurement, sachez bien que cet extérieur que vous voyez n'est qu'une projection de ce qui se passe au-dedans de vous. Alors le jugement, c'est de ne pas vous accueillir dans la réalité où vous êtes. Vous dites, comment se fait-il, moi, je suis un être spirituel, je médite chaque jour, et voici que lorsque je rencontre mon patron, je peux serrer le poing. Comment se fait-il que moi, j'ai de la colère, alors que je me crois un être spirituel? Ça, c'est l'ego. Parce que l'ego, lui, va créer cette division entre l'être spirituel que vous croyez être ou que vous désirez être et un autre état qui est un état émotionnel. Appelez-le colère ou peine ou peu importe tous les attributs que vous avez nommés, André. Et quelque part, cette division est maintenue. Et c'est l'ego qui maintient cette division parce que quelque part, l'ego est un juge. Et le juge, lui, ne peut pas, lorsqu'il a deux clients devant lui, dire « celui-ci n'est pas coupable et celui-ci est coupable ». Il ne peut pas juger les deux. Il doit en juger un et libérer l'autre. Et c'est là la fausseté de ce qui est dans l'être humain. Alors, lorsque vous êtes en état méditatif et que vous êtes à la recherche de ce monde de conscience, appelé le monde spirituel, mais qu'en même temps vous vivez de la colère, ne jugez pas votre colère et ne vous jugez pas non plus d'être spirituel. Sachez que quelque part tout ceci va se dissoudre dans l'unité du divin lorsque l'ego ne sera plus là. Alors, cet orgueil qui est en vous, accueillez-la. Derrière cet orgueil, il y a un besoin. Ce doute qui est en vous, traversez-le, accueillez-le, connaissez-le, demandez-lui ce qu'il vient vous enseigner, et vous verrez que quelque part, il cache un besoin. Et si vous allez chercher chacun de ces éléments contre lesquels vous vous battez sans cesse, contre lesquels vous êtes toujours en querelle, nous vous dirons, accueillez-le un à un. Demandez-leur ce qu'ils viennent vous enseigner et vous allez voir que le seul besoin qui est caché derrière tout cela est un besoin d'amour et que le besoin d'amour, c'est un besoin d'unité avec la totalité qui vous habite.
Que pouvez-vous rajouter à celui qui dit comment casser le doute de mon potentiel?
Vous n'avez pas à casser le doute de votre potentiel. Pourquoi vous casser? Pourquoi vous briser? Pourquoi vous faire mal? Si vous avez un potentiel, exploitez-le de la meilleure manière que vous pouvez. Si ce potentiel est que vous soyez écrivain, devenez le meilleur écrivain. Si votre potentiel est d'être musicien, devenez le meilleur musicien. Si votre potentiel est d'être secrétaire, soyez le meilleur secrétaire. Soyez la meilleure mère de famille. Et lorsque nous disons meilleur dans le sens d'en dehors d'un rôle. Vous êtes capable de réaliser le potentiel qui vous habite si vous ne vous enfermez pas dans un rôle par rapport à ce potentiel. D'abord, sachez bien que ce potentiel ne vous appartient pas quelque part dans le monde de la troisième dimension. Il appartient au divin qui vous l'a donné. Alors, pourquoi briseriez-vous ce qui vous a été offert? Si vous dites « j'ai du potentiel et avec ce potentiel, j'en profite pour être capable de mépriser les autres ou d'être tellement en concurrence que je veux prouver quelque chose aux autres pour me valoriser moi-même, alors ce n'est pas du potentiel qu'il faut, ce n'est pas le potentiel qu'il faut briser, c'est l'attitude intérieure qu'il faut regarder et qu'il faut transformer.
Il y a deux questions qui s'apparentent ici. L'ego influence-t-il nos intuitions? Et comment reconnaître une intuition qui commande de l'action? Et l'autre question, c'est comment reconnaître les messages sans être influencé par les jeux subtils de l'ego?
Cette question est subtile en elle-même, parce que quelque part, la personne qui pose cette question, et il y en a plus qu'une, parce qu'il y a, nous dirons, une énergie de collectivité et une énergie très interreliée entre les personnes qui sont ici ce soir. Nous vous dirons que quelque part, vous ne vous trompez jamais d'abord, dans un premier temps. La seule erreur que vous pouvez faire, c'est celle de vous juger. Ça, c'est toujours l'ego. Alors, il faut vous demander en premier lieu, est-ce que vous jugez l'intuition que vous venez de recevoir? Peut-être recevez-vous l'intuition d'aller chez votre belle-mère et de lui offrir un service. Et si vous suivez l'intuition et que vous arrivez chez votre belle-mère et qu'elle vous dit « Je ne t'ai rien demandé et je ne veux rien savoir » et qu'elle vous ferme la porte au nez, vous pourrez retourner chez vous en vous disant « Je crois que je n'avais pas une bonne intuition. » Eh bien, peut-être que votre intuition était une grande sagesse et que vous aviez besoin d'être capable d'aller chez votre belle-mère. Nous n'utilisons pas ceci de façon péjorative. Elle est belle, la mère. Mais que cette personne vous ait fermé la porte au nez pour que vous puissiez rester dans un état neutre, c'est-à-dire dans un mouvement où vous êtes prêt à donner, mais vous êtes prêt aussi à accueillir que l'autre n'est pas prêt à recevoir. Et peut-être que si vous êtes capable d'aller jusque-là, cette femme ou cette personne ou cette belle-mère reviendra auprès de vous et vous dira « Tu sais, j'ai saisi que l'autre jour, lorsque je t'ai fermé la porte au nez, j'ai compris que je n'avais pas la capacité de recevoir et je ne voulais pas recevoir parce que je n'acceptais pas de voir ma pauvreté. » Et alors, il se créera entre vous, peut-être bien, une grande fluidité. Ceci est un exemple, bien sûr, que vous avez à prendre uniquement de façon symbolique, mais c'est pour vous montrer que vous ne vous trompez pas lorsque vous suivez une intuition. Même si votre intuition ne semble pas donner le résultat que vous attendiez. Si vous avez une intuition et que vous dites « ça c'est merveilleux, j'y vais », mais que quelque part le mental et l'ego commencent à intervenir et dire « eh bien c'est merveilleux que tu aies eu une intuition, maintenant tu devras obtenir tel résultat » et là, nous dirons « le grand placotage commence » avec le mental et l'ego, qui vont se servir de l'intuition pour être capables de vous manipuler. Mais si vous restez dans ce mouvement d'intuition et que vous dites « je vais donner suite à l'intuition sans attente et sans attache », alors nous vous dirons que le mental et l'ego vont retourner au sommeil. Parce que c'est là que vous allez reconnaître la vérité de ce que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire si vous êtes sans attente et sans attache. Sans attache, par exemple, au message que vous recevez. Imaginez que la nuit, vous venez de recevoir comme message que vous avez une âme sœur. Le lendemain matin, vous dites « c'est extraordinaire, le message intuitif que je viens de recevoir ». Et là, vous prenez la rue, vous dévisagez toutes les personnes que vous voyez en vous disant « est-ce que c'est mon âme sœur ?» Et si vous n'avez pas d'attente et que vous dites à votre âme « merci de m'avoir donné ce message, J'attends la suite. Peut-être que votre âme viendra vous révéler que votre âme sœur est au-dedans de vous et qu'elle vous attend depuis des millénaires. Alors, ce ne sera ni votre ego ni votre mental qui vous aura manipulé, mais c'est cette espèce de lâcher prise, cette vérité avec vous-même et ce non-attachement qui vous dira la vérité de ce qui vous est révélé.
Par rapport à ce que vous venez de mentionner, il y a une question et je sens le besoin de la reposer. Parlez-nous des âmes sœurs.
Bien sûr. Elles existent, comme les couples existent sur le plan terrestre. Est-ce qu'ils existeront toujours? Est-ce qu'il y a des âmes sœurs? Certainement. Dans les plans de l'astral, il y a des âmes sœurs. Et vous n'avez pas à juger les plans de l'astral. Il y a 7 plans dans l'astral. Et au sommet du 7e plan, c'est le lieu de l'illumination. Et il y a des êtres qui se sont retrouvés comme des âmes sœurs. Prenez par exemple Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, qui étaient de grands mystiques très évolués, mais qui étaient au 7e plan de l'astral et qui se sont retrouvés dans une complicité d'âme extraordinairement belle. Nous vous dirons que désormais, ils sont dans l'énergie des maîtres ascensionnés et que le maître ascensionné, lui, n'a pas d'âme sœur. Il n'a pas besoin d'avoir d'âme sœur parce que quelque part, il fait un avec tout ce qui est. Et la sœur qu'il aurait pu chercher était à l'intérieur de lui, c'est-à-dire l'âme supérieure qui veut épouser l'âme des profondeurs. Et lorsque ces deux âmes se retrouvent et s'épousent, quelque part, la Trinité naît en vous. Cependant, nous allons un peu vous rassurer. Ici, en disant ceci, nous ne voulons pas dire que les gens ne doivent pas s'épouser, que les gens ne doivent pas se rechercher comme couple, que les gens ne doivent pas échanger entre hommes et femmes et vivre des relations. Bien au contraire, si vous avez besoin d'un miroir extérieur à vous pour venir vous montrer qui vous êtes, alors quelque part, cherchez une personne qui viendra vous donner ce reflet. Mais vous verrez qu'au terme de la relation, vous comprendrez que cette personne n'a toujours été qu'un reflet, qu'elle a toujours été elle-même, que vous avez toujours été vous-même, et que ce reflet a été nécessaire pour vous apprendre qui vous étiez, pour vous apprendre aussi la vérité sur vous-même, pour vous apprendre la transparence et pour vous apprendre à traverser votre propre miroir, c'est-à-dire à créer les épousailles entre l'esprit et la matière, entre la partie de vous qui se débat dans la 3e dimension et l'autre partie de vous qui est au sommet de cette échelle de Jacob. Alors, si vous avez besoin de trouver quelqu'un, cherchez, mais sachez que quelque part, ceci n'est pas définitif. Ceci est une voie pour vous conduire à l'union parfaite avec vous-même. Si vous n'êtes pas rendu là, ne faites pas le kangourou. Acceptez de traverser les étapes une à une et à vous reconnaître dans la vérité de ce que vous vivez. Personne extérieur à vous, même pas le chariot blanc, ne peut vous dire quelle est votre vérité. C'est vous qui savez si une vérité vous convient ou si elle ne vous convient pas.
Peux-je te faire un peu de lumière liquide?
Quelle bénédiction! Merci, André.
Bienvenue. Alors, la prochaine question, c'est à quel moment reconnaît-on que l'ego travaille avec nous et avec le moi supérieur?
Lorsque vous n'êtes plus dans le jugement. mais lorsque vous devenez observateur de votre réalité. C'est-à-dire, qui peut vous apparaître détaché de vous, mais qui n'est pas détaché de vous, et qui est la partie de vous qui est déjà le divin, et qui vous observe, et qui vous observe vivre votre émotion, vivre votre expérimentation, qui ne vous juge jamais, mais qui vous interpelle toujours. Lorsque vous êtes capable de vous placer, ne fût-ce qu'une minute par jour, à l'intérieur de cette partie de vous, pour pouvoir vous observer sans jugement, à travers les monts et les veaux, à travers les bas et les hauts, à travers les vagues les plus profondes et les pics les plus lumineux, sans juger que rien de tout cela n'est supérieur à quoi que ce soit, mais que tout est chemin, que tout est voie, que tout est appel à l'unité, alors sachez que vous êtes en dehors de l'ego. Sachez que lorsque vous posez le regard sur votre frère et que vous voyez déjà le Christ en lui, vous êtes en dehors de l'ego. Sachez que lorsque vous vous regardez vous-même et que vous voyez le Christ en vous, vous êtes en dehors de l'ego. Voyez que lorsque vous regardez vos gouvernements, que vous regardez vos chefs de religion, que vous regardez les gens qui vous entourent, sans jugement, mais en essayant de voir le visage du Christ qui se dessine derrière tous ces événements, alors sachez que vous commencez à entraîner l'ego dans cette grande énergie christique et que là, elle vous servira. Elle deviendra non pas votre maître, mais elle deviendra celle qui viendra chuchoter à votre oreille quel est le pas suivant qu'il faut faire. Elle deviendra votre intuition. Et alors, lorsque vous serez capable de contempler ce Christ partout autour de vous, sachez que vous n'aurez qu'un seul cerveau. Vous n'aurez plus un cerveau droit et un cerveau gauche, mais ces deux cerveaux se seront unifiés en un. Et alors, vous ne verrez plus ni le masculin ni le féminin, ni le bien ni le mal, ni le chaud ni le froid. Vous ne verrez que ce visage du Christ qui est unité et qui vous permettra d'avancer plus profondément dans la connaissance et dans la conscience.
Juste peut-être pour bien comprendre cette forme d'énergie qui est parlée, juste nous expliquer brièvement l'énergie christique, s'il vous plaît.
Certainement. D'abord, pour vous expliquer l'énergie christique, nous allons un peu vous parler de là où vous êtes situé dans le moment présent. Et nous parlons de là où vous êtes situé dans la grande trajectoire de l'humanité. Sachez que l'humanité est comme un fœtus qui s'est développé progressivement. Elle est partie du monde animal. Et alors, elle est sortie de ce monde. Et un jour, elle a eu accès à la pensée, ce qui l'a distinguée de la race animale. Mais elle est restée pendant des millénaires et des millénaires entre ce monde humain et ce monde animal. Mais voici que désormais, maintenant que vous avez traversé l'ère du poisson ou de l'homme poisson, c'est-à-dire de l'homme qui est à demi-homme et à demi-poisson. Là, vous faites un saut. Vous faites un saut dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère du Christ. Et le Christ, c'est l'homme reconstitué dans le divin, c'est-à-dire qui s'arrache à son animalité, qui s'arrache à son monde de division, qui s'arrache à son monde de dualité, et qui commence à avoir la conscience du divin qu'il est. Alors, le Christ ou l'énergie christique, c'est la conscience de ce divin qui vous habite et de ce divin que vous êtes en train de tellement intégrer que quelque part, la partie de vous qui vous a maintenu dans la densité, dans la corrosion est en train de vous quitter et vous êtes en train de sortir de ce monde ancien. Le bon que vous êtes en train de faire dans cette énergie christique ou cette énergie de conscience-connaissance du divin que vous êtes et de l'actualisation de ce divin que vous êtes, nous vous dirons, il se fait avec l'air du Verseau. Comme l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, l'humanité quelque part est rendue au 9e mois et la terre est prête d'accoucher. Et lorsque nous parlons de la terre, nous ne parlons pas uniquement du sol sur lequel vos pieds reposent, mais nous parlons aussi de cette grande terre cosmique qui vous habite le cœur. Et nous dirons que cette terre est en train d'accoucher d'elle-même. Elle est en train d'accoucher du divin. Elle est en train d'accoucher à la conscience. Elle est en train d'accoucher à la connaissance. Et toutes ces mémoires qui sont cristallisées en elle sont en train de se fluidifier et sont en train de se révéler à l'humanité qui va se reconnaître dans sa force, dans sa puissance et dans ce divin.
Merci pour cette précision. Quelle est la signification de la souffrance? Y a-t-il une relation avec la destruction de l'ego?
Certainement. Nous vous dirons que la souffrance est un chemin. C'est une voie presque royale, parce que c'est une voie initiatique. Cependant, l'homme n'est pas fait pour la souffrance, et Dieu n'a pas créé la souffrance. C'est dans sa division, dans son désir de se voir égal à Dieu, comme le jeune fils rebelle du commentaire d'ouverture, qui disait à son père, « Si toi tu as cultivé seul le royaume, pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas le faire ?» Le père n'a rien dit. Il a attendu que son fils rebelle aille vivre toute son expérience et revienne, après être tombé dans ce ravin et avoir été récupéré par son frère. Alors sachez bien que quelque part, il y a déjà en vous une réponse. Sachez bien que quelque part, vous savez que vous êtes en train de sortir de cette énergie dans laquelle vous vous êtes empoisonné. Sachez bien que la maturité est en vous et qu'elle se manifeste. Précisez à nouveau la question, André.
C'était
sur la souffrance.
Sur la souffrance, et s'il y a une relation avec la destruction de l'ego.
Nous n'aimons pas beaucoup le mot « destruction de l'ego » parce que lorsque vous parlez de détruire l'ego, quelque part, il y a de la colère. Mais si vous parlez plutôt d'amener l'ego en état de transcendance, c'est déjà différent. Et c'est à cela que la souffrance vous sert. Observez bien que lorsque l'âme essaie de vous faire comprendre quelque chose et que vous ne voulez pas comprendre, elle vous crée un autre événement. Nous donnons un exemple. Imaginez que vous avez choisi un conjoint et que le jour de votre mariage, vous étiez hésitant en vous disant « Je ne sais pas si je fais bien. Quelque part, j'ai l'impression que je marie cet homme ou que je marie cette femme uniquement pour plaire à ses parents et pour plaire à la société, alors que moi je ne voudrais pas de ce lien. Et ceci est clair au-dedans de vous. Mais comme vous êtes encore embourbé dans ce que la société demande, vous allez dans cette voie. À ce moment-là, vous vivrez une rupture. Mais si vous n'avez pas compris cette rupture, vous en créerez une seconde, et une troisième, et une quatrième, et ainsi de suite. Et vous connaissez bien ces scénarios répétés, n'est-ce pas? Personne plus que vous ne les connaît, parce que vous avez connu toutes les voies de souffrance depuis des millénaires. N'est-il pas temps maintenant que vous écoutiez le moi supérieur? Nous devrons bientôt quitter la forme, André. Nous pourrions répondre à une dernière question.
Bon, là, il y a une question ici qui dit, lorsque je parle à quelqu'un et je me sens pas écouté et je me sens jugé, je me bloque et à ce moment-là, je me retire. Comment faire pour ne pas avoir le sentiment à l'intérieur de vide? Alors, je me sens mal à l'aise.
Cette personne qui est capable de décrire son état est sur le point de trouver une solution. Celui qui ne trouve pas de solution est celui qui n'arrive pas à décrire son état intérieur. Alors, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui vous fait un reproche ou qui ne vous accueille pas, ce quelqu'un qui est en face de vous n'est qu'une projection que vous avez créée par sagesse pour vous montrer comment vous-même, vous ne vous accueillez pas. Alors, si vous dites « je ne m'accueille pas, donc je ne suis pas bon », vous allez vous recréer d'autres formes de miroir, de la même façon. Mais si vous dites « tiens, je vois cette projection en face de moi », et cette projection vient me révéler par sagesse une partie de moi où je ne m'accueille pas, je vais prendre du temps et retourner en moi-même pour voir où moi-même je ne m'accueille pas. Et alors vous comprendrez à l'intérieur de tout ce comportement que vous avez peur de ne pas être aimé, que vous avez peur de ne pas être préféré, que vous avez peur de ne pas être choisi, comme l'enfant rebelle du commentaire d'ouverture, mais que quelque part, avec cette peur, vous ne gagnez rien. Mais si vous retournez au-dedans de vous et que vous dites « Moi, est-ce que je m'accueille ? Moi, est-ce que je m'aime ? Moi, est-ce que je suis avec moi ? Donc, si je suis avec moi, je ne suis pas seul. Si je suis avec mon âme supérieure, je ne suis pas seul. Si je ne me rejette pas et que je peux me dire « Je ne suis pas rejetable, donc je ne serai jamais rejeté », même si quelqu'un semblait me rejeter de l'extérieur. Alors vous comprendrez que toutes ces manifestations extérieures ne sont là que pour vous ramener à vous, pour que vous fassiez en toute patience le travail sur vous-même pour pouvoir vous transformer. Si le Père a dit « Allez et cultivez mes terres pendant 7 ans », le chiffre 7 est le chiffre parfait. Vous cultiverez la terre aussi longtemps que vous aurez besoin de la cultiver si quelque part vous ne comprenez pas que vous devez revenir à vous-même. Il n'y a pas d'autre voie, c'est la voie sacrée. Alors prenez toutes vos projections extérieures, tout ce qui vous vient de l'extérieur et qui vous blesse, ramenez ceci au-dedans de vous. Sachez que c'est vous qui vous blessez et que quelque part, il y a aussi un pourcentage que vous avez à laisser à l'autre personne. Parce que si l'autre personne vous juge, dites-vous bien qu'elle se juge elle-même. Et jamais quelqu'un qui est en face de vous ne vous parle de quelqu'un d'autre que de lui-même. Est-ce que cela vous rassure? Et vous-même, lorsque vous pensez que les autres pensent des choses de vous, il n'y a que vous qui pensez des choses de vous-même. Alors là, la balle est dans votre camp, mais vous avez tous les instruments pour travailler. Le divin est avec vous.
Je me permets d'insister sur deux petites questions ici que je sens le besoin de, si l'énergie peut les prendre.
Puisque vous insistez.
Alors, je me joins dans cette énergie. Lorsque je constate que mon ego a mal, comment découvrir la joie profonde en moi?
Ce n'est pas votre ego qui a mal, c'est votre corps émotionnel. C'est la partie de vous qui se croit séparée qui a mal. Et la partie de vous qui se croit séparée, c'est votre corps émotionnel. Mais l'ego, lui, se sert du mental et du corps émotionnel pour être capable de vous monter des scénarios. Mais lorsque vous avez mal à votre corps émotionnel, que faites-vous lorsqu'un enfant a mal? Est-ce que vous lui dites, tu as mal? Eh bien, je n'y peux rien. Que faites-vous? Vous vous approchez de lui, vous regardez sa blessure. Si sa blessure est profonde, vous vous hâtez de l'amener chez un professionnel qui va pouvoir aider à gérer cette blessure. Si la blessure est superficielle, vous le consolez pour commencer et vous dites, je vais guérir ta blessure, j'ai ce pouvoir. Est-ce que vous faites ceci avec votre corps émotionnel? Est-ce que vous approchez de lui comme vous vous approcheriez d'un enfant blessé? Est-ce que vous allez le faire soigner chez un professionnel? C'est-à-dire, est-ce que vous vous donnez des miroirs dégagés à l'extérieur de vous qui peuvent vous permettre de vous voir à l'intérieur de cette blessure de votre corps émotionnel? Ou si vous dites, tiens, je vais changer d'idée, je vais allumer la télévision et regarder un bon film. Vous regarderez un bon film, mais le bon film, quelque part, n'aura pas guéri la blessure. Et vous devrez y revenir. Alors, si votre corps émotionnel a mal, soyez compassion avec lui.
Et comme dernière question, vous en avez parlé un petit peu dans ce dernier commentaire que vous venez de faire, mais dans quelle mesure que l'ego peut-il nous faire grandir?
L'ego peut vous faire grandir si vous le voyez comme celui qui vous permet de vous mesurer. Imaginez que vous allez faire des arts martiaux et que vous devez vous présenter devant quelqu'un qui est devant vous, qui veut, comme vous, être capable d'arriver à diriger sa volonté, à ne pas se laisser avoir par l'émotion, à bien avoir le contrôle de son énergie totale. Mais il est placé devant vous comme s'il était un adversaire. Il n'est pas du tout un adversaire, mais il est placé comme cela devant vous. Alors, si vous dites, « Ah, mon Dieu, tout à coup, il m'a, je préfère fuir », vous sortez. Vous ne gérerez pas votre énergie. Si vous dites, « Je vais le jeter par terre, je vais l'écraser, il ne se mesurera plus jamais à moi, je le hais déjà », alors, il en reviendra mille. Vaut mieux dire, cet ego est là pour que je me mesure à moi-même. Et chaque fois qu'il se présente à moi, chaque fois que quelque part il m'amène dans le monde émotionnel ou dans le monde de la division qui me tiraille et qui me déchire au-dedans de moi, je dois profiter de cette occasion pour me mesurer à lui. Parce que lorsque je serai de même taille que lui, c'est moi qui l'absorberai et qui l'amènerai dans la transcendance. Alors ne le voyez pas comme un ennemi, mais comme l'adversaire nécessaire qui est là pour vous permettre de vous voir dans tous vos jeux, dans tous vos scénarios, dans toutes vos lamentations et dans tous vos petits chiens piteux. Lorsque vous aurez compris que vous n'avez pas à jouer le chien piteux, mais que vous avez à vous tenir debout devant cette partie de vous-même, puisque l'ego n'est pas en dehors de vous-même, alors vous pourrez vous mesurer à lui et quelque part, vous deviendrez maître. Et vous irez là, dans cette quatrième dimension, où est établie cette paix et cette sérénité qui devient un état. Alors, chers amis, avant de vous quitter, nous voulons vous annoncer que nous ne vous quittons pas. Le chariot blanc est très actif sur le plan terrestre actuellement. Il y a beaucoup d'espaces où les gens ont besoin de se recontacter, ont besoin de former des petits groupes. Si cela vous convient, créez un petit groupe où vous pourrez, entre vous, être capable d'étudier les enseignements que nous vous donnons et en ajouter, parce que vous êtes aussi des maîtres du chariot blanc. Et alors, vous supportez réciproquement dans ce grand passage qui se prépare. Et peut-être, un jour, viendrons-nous de nouveau ici vous parler du passage. Alors que la paix, que la joie et la sérénité vous accompagnent, et nous vous dirons, accueillez votre ego. Amen.
Alors, nous remercions le chariot blanc Nous vous remercions pour cette collaboration. Cette collaboration qui nous ramène tellement dans un contact étroit avec ce qui semble parfois si loin et si lointain. Et pourtant, nous n'avons qu'à créer cet espace pour être en contact direct avec cet intérieur, avec cet ego, avec également cette matière. Alors c'est dans cette matière que nous recevons ces vibrations venant de d'autres plans. Et il est bien de s'ouvrir afin de vraiment prendre conscience que nous recevons ces informations de d'autres plans dans notre matière consciente actuellement. Alors merci pour cette collaboration.
Bienvenue à vous-même, André, et bienvenue à l'Assemblée. Et à tous ceux que vous n'avez pas vus, mais qui sont présents ici.
Alors, suivant le besoin, veuillez, s'il vous plaît, procéder.